la mort de Montréal, branchez-vous. On veut savoir si les contacts que vous avez nous permettront de savoir comment nous autres nous orienter sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan spirituel.
L'homme doit s'orienter sur le plan personnel. L'évolution future de l'homme, on peut la regarder sur deux plans. On peut la regarder sur le plan collectif, comme ce fut le cas pendant des milliers d'années, et on peut la regarder sur le plan individuel. Avec l'évolution des nouvelles générations, l'homme sera obligé de prendre conscience. C'est évident parce que l'homme devient intelligent. L'homme entre dans une phase d'évolution où l'expérience individuelle, personnelle, antérieure, n'était pas basée sur une intelligence profonde de soi. L'homme était un être conditionné, il était très conditionné. L'histoire l'a complètement conditionné. La conscience de la race. Avec l'évolution et les événements qui vont se passer à l'avenir, l'homme sera obligé de se prendre en main, dans ce sens qu'il devra développer son propre centre de gravité, faire son propre contact intérieur, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il ne risque pas de ne pas avoir le temps? Il va dégénérer physiquement et intellectuellement?
Ça dépend du niveau d'évolution de l'individu, ça. L'évolution future de l'homme, elle sera basée sur le statut spirituel ou le statut universel de l'individu. Il y a des individus qui peuvent saisir, comprendre des choses plus rapidement que d'autres. Il y a des individus qui ont une grande sensibilité interne. Par contre, pour que l'homme puisse réellement favoriser son individualité puis en arriver éventuellement à une identité profonde de son être, il lui faudra avoir une conscience ou une science très très avancée de l'invisible. Une des qualités de l'évolution future sera justement basée sur cette science de l'invisible. Une science qui sera très profonde, qui ira très loin dans la documentation psychique de l'être, dans la documentation mentale de l'homme, vitale, émotive. L'homme doit connaître le secret du monde mental. L'homme, et c'est comme ça qu'il pourra déconditionner sa personnalité pour la reconditionner. Mais la reconditionner par rapport à des forces intérieures qui font partie de sa propre lumière, au lieu de la conditionner par rapport à des mouvements ou de forces sociales qui font partie de ses ténèbres ou des ténèbres de la société. L'homme sera de plus en plus idéologisé. L'idéologie n'aura plus de puissance ou de pouvoir sur lui.
Si les idéologies ou les systèmes qui sont mis en place dans l'inconscient collectif finissent toujours par écraser l'individu, qui devient marginal par le fait qu'il est un individu détaché du troupeau de moutons, celui qui va vraiment être conscientisé va se faire écraser. Parce qu'il est marginal, il dérange la mécanique.
Non. L'homme qui sera conscientisé sera très intelligent. Donc, sa conscience étant une conscience intelligente, lui permettra de comprendre les conditions qui sont extérieures à lui, comme elle lui permettra de comprendre les conditions qui sont intérieures à lui. Donc l'homme conscient sera pas marginal. La marginalité, c'est une déformation de la conscience, mais c'est une pulsion puissante de l'âme à travers l'expérience individuelle. La marginalité, ce n'est pas une sécurité pour l'homme. Au cours des millénaires, les hommes qui ont vécu de la marginalité ont souffert. Ils ont souffert des forces extérieures à eux, parce que le pouvoir politique était intransigeant. Mais depuis quelques générations, et avec l'avenir, le pouvoir politique devient de plus en plus démocratisé, dans ce sens que la conscience sociale même évolue. Les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, ainsi de suite. Et tout ceci permet à l'individu de s'exprimer, mais pour les hommes qui auront une grande conscience, ils pourront facilement se rendre homogènes avec cette démocratisation, mais c'est intérieurement qu'ils seront identiques à eux. Parce que même si on parle de conscience sur la Terre, il ne faut pas s'imaginer, d'ailleurs, cette conscience nouvelle sera une conscience intelligente, ce ne sera pas une conscience spirituelle. Ce sera définitivement une conscience intelligente qui qui aura dépassé la conscience spirituelle, parce que la conscience spirituelle aussi, c'est une forme de conditionnement. Que la conscience spirituelle soit conditionnée par l'Église ou par les philosophies orientales, ou qu'elle soit conditionnée par l'ésotérisme, l'occultisme, la conscience spirituelle, c'est une conscience conditionnée. Et l'homme doit aller au-delà même de ce conditionnement pour entrer dans sa propre lumière. À ce moment-là, il est suffisamment, ou il sera suffisamment intelligent pour voir que des consciences ou des états de conscience conditionnées sont nécessaires. Les religions sont nécessaires. Les consciences spirituelles, intuitives, occultes, ésotériques aussi sont nécessaires. Mais c'est pas la fin. La conscience spirituelle de l'homme sur la terre, ce n'est pas la fin. L'homme devra en arriver éventuellement à avoir une conscience réellement très intelligente pour comprendre justement ce qui se passe sur la terre, sur le plan matériel, et aussi ce qui se passe dans l'invisible. Mais tant que l'homme aura une conscience spirituelle, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et je conçois que le grand danger de la nouvelle conscience, ses mouvements premiers, ses recherches premières, sera justement cette illusion. Parce qu'une fois que l'homme se conscientise, ses centres psychiques s'ouvrent. Comme j'ai déjà dit, l'homme c'est comme une radio. Qui intervient dans son cerveau? Qui de l'invisible, de quel plan de l'invisible viennent les interventions? C'est très important pour l'homme de les connaître, de les comprendre, de les savoir, de pouvoir voir à travers les illusions ou les voiles de ces contacts-là. Ce n'est pas parce qu'un homme aura un contact avec l'invisible qu'il sera en sécurité permanente. Le contact avec l'invisible fera partie de sa sensibilité animique, ça fera partie de sa grande intuition, mais ça ne fera pas nécessairement partie de son intelligence. Donc autant l'homme aujourd'hui, sur le plan matériel, s'efforce de contrôler la matière, qu'on appelle la science, autant l'homme s'efforcera de contrôler l'invisible en lui, ce que nous appellerons une nouvelle science, mais ce sera la science de l'invisible. Si l'homme ne contrôle pas l'invisible en lui, il est manipulé par l'invisible, il est conditionné par lui, de la même façon que s'il ne contrôle pas la matière, il est manipulé par elle. Et le plus grand challenge de l'homme, des nouvelles générations, sera justement de pouvoir contrôler l'invisible, de connaître les lois de l'invisible comme on connaît les lois de la physique moderne. Parce que l'invisible, dans le fond, ce sont des mondes parallèles. L'homme a accès à ces mondes. Il y a des entités dans ces mondes-là. Il y a des êtres, il y a des personnages, il y a des forces. Donc, c'est très important pour l'homme de les comprendre. Mais s'il n'en arrive pas à dépasser ou à aller plus loin que sa spiritualité, qui est dans le fond simplement un tremplin, c'est un tremplin la spiritualité. S'il n'en arrive pas à dépasser la spiritualité pour entrer dans le mental pur de la conscience universelle, de sa conscience cosmique, appelez ça comme vous voulez, où il trouvera l'identité intégrale de sa conscience, à ce moment-là, l'homme ne sera pas en permanence sécure dans le monde.
Dans les prophéties, on annonce la venue de faux messies avant l'arrivée du vrai messie. C'est l'interprétation que vous pouvez donner. C'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai donné une rencontre ici, intitulée « Messie », mais si ça n'était pas celui qu'on s'attend à rencontrer. Beaucoup de jeux de mots dans tout ça, là.
Oui.
J'ai expliqué que justement de l'invisible surgiront des êtres qui rencontreront des humains. Ils font partie d'une armée invisible. Pour troubler les humains, ou pour préparer plutôt la venue d'un grand monarque, d'un faux messie, de quelqu'un qui viendra amener tout le troupeau vers l'abattoir.
Si, pour comprendre la venue de ce que vous appelez, vous, un messie ou un être supérieur, ainsi de suite, il faut connaître les lois du pouvoir. Il faut connaître le pouvoir de l'invisible. L'invisible est basé sur le pouvoir. L'invisible a établi son pouvoir sur la Terre depuis des millénaires. On en subit encore aujourd'hui les conséquences. Pour que l'homme puisse comprendre le phénomène de la venue de ce personnage, il faut d'abord qu'il comprenne son propre phénomène. Parce que c'est évident qu'un être supérieur, un être qui vient vers une planète pour élever sa vibration, pour changer le cours de la civilisation, c'est pas un être qui a besoin de passer dans les journaux ou de faire des petites annonces. Donc, toute manifestation cosmique sur une planète se fait, s'est fait, ou se fera dans le plus grand des silences. Ça sera toujours fait dans l'ombre. Et il y a des hommes sur la Terre qui pourront dans leur temps. Élever leur vibration pour pouvoir être en communication avec cette force nouvelle. Donc la venue ou la reconnaissance d'un être supérieur, que vous appelez un messie, un messager, doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir occulte sur la planète. Et ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Les gens ou les êtres qui pensent que ce bonhomme-là va venir comme ça, là, dans un plateau d'argent, ça ne se fait pas. Des êtres de cette grandeur-là travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans le secret, et de ce secret, ils peuvent inonder par vibration tellurique une planète. Ce ne sont pas des êtres qui sont à la mesure d'une conscience humaine, ce sont des êtres qui sont à la mesure d'une conscience cosmique. Mais le problème de l'homme face à la venue de cet être-là, de ces genres de personnages, est directement relié à la confrontation en eux et à la lutte en eux du pouvoir ancestral de la conscience de l'invisible sur l'humanité. Le plus grand problème de l'homme, ce sera de voir à travers, de discerner ce pouvoir qui manipule, qui manipule, qui manipule pour créer quoi? La confusion, l'instabilité, des formes différentes de mensonges. Donc ces prophètes que les prophéties mentionnent, ces faux prophètes, ce sont des êtres qui feront certaines choses ou qui ont fait certaines choses, mais qui auront fait certaines choses parce que les hommes, parce que l'humanité, dans sa naïveté, son ignorance, sa spiritualité enfantine, ne leur permettra pas de voir le jeu occulte du pouvoir sur la Terre. Il y aura l'homme réalisé ou découvrir dans un temps, dans le temps où ça se manifeste, ces personnages, ça va de soi. Il n'y a aucune difficulté. Mais la difficulté est dans le processus de préparation. La difficulté est dans la période qui vient avant. Ces êtres-là viennent se manifester dans leur temps. Ils ne se manifestent pas parce que Radio-Canada veut qu'ils se manifestent ou parce que la presse mondiale déclame qu'on a besoin de quelqu'un. Ceci fait simplement partie des grandes intuitions de l'humanité, comme les prophéties font partie des grandes intuitions de l'humanité. Mais le jeu très très serré, et il sera très serré ce jeu, se fera entre l'homme et lui-même. La lutte se fera entre l'homme et lui-même. Donc, ce personnage, qu'il vienne dans une forme ou dans une autre, il sera à la mesure de l'homme, dans la mesure où l'homme sera à la mesure de lui-même. Regardez le Nazaréen. Le Nazaréen, il est venu, il a fait ses choses, il a été renié, il a été aimé, il y a eu des êtres qui étaient à la mesure de lui-même, donc qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, qui ont travaillé avec, d'autres qui, au cours des siècles, ont suivi un peu par la vibration spirituelle l'ascendance de sa propre conscience. Mais par contre, dans un même temps, vous avez eu des êtres qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, et ainsi de suite. Donc c'est normal. Et ce sera la même situation dans l'avenir. Il y aura des hommes sur la Terre qui seront suffisamment près d'eux-mêmes pour reconnaître. Si un homme est dans sa lumière, il reconnaîtra la lumière. S'il n'est pas dans sa lumière, il ne verra pas la lumière. Donc la réponse à cette question qui vient de tous les coins, parce que les gens se pressent aujourd'hui, ou s'empressent, ou s'inquiètent, ou cherchent, ce qui est très normal psychologiquement, mais cosmiquement, ça fait partie de toute la trame secrète des grands événements qui doivent donner à l'humanité une nouvelle vibration. Secrète dans ce sens que ce qui est voilé à l'homme, ce qui est voilé à l'homme, à la masse en général, ça devient pour elle un secret. Le secret, il existe dans la mesure où on a des voiles. Dans la mesure où on n'a plus de voiles, il n'y a plus de secret. Donc le secret, il est toujours proportionnel à la naïveté ou à l'ignorance ou à la forme quelconque d'impuissance mentale de l'homme. Ça, le secret. Je ne vois pas que des êtres créent le secret pour le secret, mais je vois que des êtres inappropriés à pouvoir recevoir le secret puissent faire quoi que ce soit avec le secret révélé. Nous savons très bien que l'humanité, dans son ensemble, sur un plan psychologique à l'échelle mondiale, a un quotient intellectuel extrêmement bas. Il s'agit simplement de voyager dans le monde, de visiter les différentes nations, les différents pays, pour voir jusqu'à quel point l'homme est très très loin de la réalité occulte, cosmique, des avatars. Donc, si l'homme n'est pas capable, à cause de son état d'émotion, à cause de son incapacité de transmuter ses corps subtils, d'en arriver à une identité suffisamment intégrale pour être dans sa propre lumière, comment voulez-vous que des êtres qui sont d'une telle grandeur puissent arriver dans le monde en se présentant dans le monde comme un politicien peut se présenter dans le monde? Ces êtres ont d'autres moyens, d'autres façons, d'autres plans d'énergie avec lesquels travailler pour en même temps subtiliser leur présence et en même temps faire leur présence ou rendre leur présence matérielle ou éthérico-matérielle sur le plan de notre planète. Il ne faut pas être naïf, vous savez, il ne faut pas être naïf. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle dans la vie au cours des siècles, au XXe siècle, maintenant, les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées et se sont rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être rassis. L'homme qui aura une certaine conscience sera un homme très rassis. Autrement dit, il aura passé par toutes les phases subtiles de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, de la manipulation psychique subtile de son mental par les forces involutives, par les forces de l'invisible.
Mais ces forces-là sont toujours actives.
Pardon?
Ces forces involutives
sont toujours actives. Elles sont actives. Et d'ailleurs, elles sont encore plus actives maintenant. Et plus on se rapproche du temps où cet homme, ou cet être, ou cette force vient dans le monde, plus ces forces seront grandes, parce qu'elles ont un calendrier, hein. Elles savent que, à partir de telle période, dans le cycle de l'évolution de notre planète, elles perdent leur pouvoir sur la Terre. Si jamais vous avez l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, qui font réellement de la magie noire, vous pouvez leur demander, parce que pour eux, dans la magie noire, Satan, c'est leur dieu. Bon, c'est leur droit, ok. Et dans leur Bible satanique, c'est très très bien écrit que cette force, leur Dieu, Satan, ainsi de suite, ont le pouvoir jusqu'à temps que, dans le symbolisme chrétien, le Christ revienne, et ils le savent, c'est « they have so much time », that's it. Donc les forces invisibles sont des entités, ce sont des intelligences, ce sont des personnalités, c'est une réalité tellement profonde qui sous-tend la totalité de la conscience à tous les niveaux, dans tous les cosmos. Et l'homme doit comprendre le jeu du pouvoir. Ce qui m'inquiète le plus en ce qui concerne les hommes qui ont une certaine sensibilité ou qui s'occupent ou qui s'intéressent à ces sciences marginales comme l'ésotérisme, c'est qu'ils sont naïfs. C'est la naïveté qui m'inquiète le plus. Parce que, à travers la naïveté, ils se font prendre. À court ou à long terme, ils se font prendre. Parce que l'homme ne peut plus se permettre d'être naïf. Nous avons été naïfs pendant des milliers d'années parce que nous étions des êtres conditionnés. Nous n'étions pas arrivés à un stade d'évolution où nous pouvions ajuster notre propre mental à notre propre lumière. Donc, nous n'avions pas le pouvoir de voir à travers la forme du mental. Nous n'avions pas le pouvoir de communiquer psychiquement avec le subconscient. Nous n'avions pas le pouvoir de faire sortir du subconscient le vrai visage de notre être, derrière les formes subconscientes de notre ego. Mais maintenant, la conscience humaine évolue très rapidement, il y a de nouvelles sciences dans le monde, l'homme se rapproche à grands pas d'une science qu'il découvrira par lui-même, qui fait partie de sa propre lumière, d'une science qui fait partie intégrale de son savoir universel. Et là, il sortira de sa naïveté.
Mais ces forces de l'ombre ont quand même une emprise très solide dans les pouvoirs extérieurs, actuellement sur notre gouvernement, sur les gouvernements de tous les peuples.
Oui, effectivement, parce que les forces de l'ombre travaillent avec toutes les assises de la conscience inférieure du mental humain. Donc, elle travaille avec les assises qui sont reliées à l'émotion, à la passion, à tout ce que nous appelons réellement humain, planétairement humain. Et elles se servent, ces forces, elles se servent de toutes les craintes de l'homme qui sont reliées à son émotivité, qui surgissent de son incapacité de mettre capter son émotion qui affecte son mental. Lorsque je parle de mater l'émotion qui affecte le mental, je ne veux pas dire de vivre sans émotivité comme un robot. Je veux dire de ne pas laisser l'émotion affecter l'intelligence. Donc ces forces utilisent et elles vivent, ces forces évoluent dans des mondes parallèles. Donc la pensée de l'homme, pour elle, c'est de la matière. L'émotion de l'homme, pour elle, c'est de la matière. C'est pour ça que souvent je dis, les morts se nourrissent des vivants. Les morts se vampirisent l'homme. Tous les gens qui ont étudié le moindrement, qui ont regardé ou qui sont allés dans des zones de l'astral, ont compris comment fonctionne le monde de la mort. Le monde de la mort fonctionne sous les lois de la crainte. Les lois de la crainte engendrent la confusion. La confusion engendre les différentes formes de perception qui souvent peuvent être intuitées, mais qui ultimement vont mener aussi à une absence totale de discernement. Donc, le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'invisible ou que ce soit par rapport au monde, c'est la crainte.
J'aimerais qu'on élabore sur un scénario qui nous a passé sous les yeux il y a à peine 50 ans. Celui d'Adolf Hitler, l'ordre noir de Tulé, avec la connivence de certains grands maîtres ésotéristes avec des pouvoirs qui venaient d'Orient, avait pu lui permettre de mettre au point un escadron d'hommes dans l'invisible, qu'on appelle les hommes en noir, qui à l'occasion se manifestent d'ailleurs habillés avec des vêtements qui sont démodés, comme s'ils remontent des années 40, lorsqu'il y a des gens qui disent avoir eu des rapports avec le phénomène extraterrestre. Alors, ça c'était juste pour faire une petite introduction à tout le dossier que j'aimerais qu'on soulève ensemble, étant donné que ces hommes en noir existent toujours, étant donné que le nazisme existe toujours, étant donné que Hitler pouvait se prétendre être le messie attendu par tous les peuples, puisqu'il voulait anéantir les juifs, et il serait resté le seul juif, donc il aurait pu prétendre être le Christ. Et son jeu n'est pas terminé, puisqu'il avait mis au point, dans des centrales neuroniques, des êtres capables, par des pouvoirs psy, d'agir à distance, soit par dédoublement, ou par dématérialisation, et ils sont toujours actifs.
Les forces avec lesquelles Hitler a traité d'une façon inconsciente et très naïve, c'était des forces noires. Effectivement, Hitler a fait un pacte avec ses forces, et c'est de ce pacte qu'il a tiré un grand pouvoir temporaire en Allemagne. Quand je reviens ou quand je parle, par exemple, de la reconnaissance de l'humanité d'un homme par rapport à un être, et que je dis que le grand danger et que le plus grand des dangers de l'humanité par rapport à ces êtres étranges qui viennent, c'est la naïveté. Ça dit tout, parce que si Hitler avait connu et compris les lois occultes de l'invisible, ce qui n'était pas le cas avant 69, il n'aurait pas vécu l'expérience de la même façon. Il aurait vécu une initiation extrêmement difficile, à moins d'avoir été, comme on peut le supposer, une âme extrêmement noire qui déjà avait une histoire avec les Atlantes dans le passé. Mais les forces qui sont venues du Tibet pour l'aider, effectivement, étaient des forces qui travaillaient avec l'astral. Ces forces sont encore agissantes aujourd'hui, très puissantes. Ces forces ont la capacité de matérialiser l'astral, donc de produire ce que vous appelez ces hommes en noir, de produire des figures ou des images qui correspondent à la nécessité psychosociale ou psychopolitique d'une organisation telle que l'ISS. Donc, pour bien comprendre le phénomène nazi et pour pouvoir en bénéficier aujourd'hui sur le plan occulte, il faut comprendre que les forces du pouvoir évolutif, les forces arimaniennes, sont actives dans le monde et qu'elles utiliseront tout, n'importe quoi, pour décevoir l'homme. Vous savez, quand je dis que c'est très important pour l'être humain de ne pas croire, si l'Allemagne n'avait pas cru Hitler, si l'Allemagne avait simplement su Hitler, comme Rudolf Steiner savait Hitler, l'Allemagne n'aurait pas suivi Hitler.
Pas suivi dans une guerre de destruction, mais suivi Hitler comme un messager messianique qui apportait un nouvel ordre de choses pour l'humanité entière.
Oui, mais vous savez, percevoir Hitler comme un messie, ça c'était bon pour les masses, mais c'était pas bon pour les initiés. Les gens qui faisaient partie de la grande calèche n'étaient pas des gens à se faire berner par Hitler. Et Rudolf Steiner faisait partie de la grande calèche. Donc les hommes qui se sont voués au culte hitlérien ou qui se sont assujettis à la puissance politique des SS, c'était des gens qui étaient eux-mêmes assoiffés du pouvoir. Donc étant assoiffés du pouvoir, ils ont été pris, que je ne vais pas nommer, sont des êtres qui font des pactes. Et ces pactes, vous faites un pacte avec l'invisible, il dure ce pacte. L'invisible, ce sont des mondes, donc ils ont une psychologie, ils ont une démagogie, et rendu à un certain point, on vous donne le pouvoir, et on vous donne le pouvoir, on vous donne le pouvoir, et rendu à un point où vous passez de la pauvreté à la richesse, presque instantanée, vous n'êtes pas intéressé à retourner à la pauvreté. Donc on vous dit, mais ok, si vous voulez continuer à ce qu'on vous donne le pouvoir, qu'on vous aide, bon, il faut à ce moment-là faire un sacrifice de ceci, faire le sacrifice de cela. Donc c'est du chantage. Donc l'homme dans son inconscience, à cause de son inconscience, va subir le chantage, il aura le pouvoir, mais il va chanter toute sa vie. Et l'homme, ses prochaines générations, cette nouvelle conscience, ces gens conscients, de l'avenir, une des choses qu'ils apprendront de l'invisible, c'est de ne pas se faire chanter. Et ce n'est pas facile, parce qu'ils chantent très bien. L'invisible est régi par les lois du mensonge cosmique, qui est une nouvelle façon de voir les choses, qui est neuve, qui fait encore partie de l'évolution de la conscience humaine à la fin du XXe siècle. Découvrir que le mensonge cosmique existe, c'est essentiel. Donc les souffrances que l'homme doit connaître ou vivre pour la découverte de cette réalité-là, il faut qu'elles soient utilisées, ces souffrances. Et si l'homme, parce qu'il va vers l'invisible, qu'il étudie l'invisible, ou qu'il s'intéresse à ce qui est marginal, la matière, ne prend pas conscience de la réalité du pouvoir occulte sur la Terre, autant au niveau des gouvernements ou des forces de la science, que de son évolution spirituelle, l'homme va se faire berner quelque part, et c'est là que, facilement, pour des raisons inconscientes, il se liera à des hommes que nous appelons, ou que vous appelez dans vos livres, les faux prophètes, parce que ils ne verront pas. Un être qui est intégral, un être qui est dans son identité, ne cherche pas le pouvoir. Il ne cherche pas, il n'a pas à le chercher.
J'en viens à ces hommes en noir, si on veut, ou à ce gouvernement parallèle dans l'invisible, qui agit et qui est toujours agissant, entraîné dans les faux crématoires une foule de juifs, sacrifice pour créer un égrégore. Et à partir de toutes ces énergies qui sont mises en place, en plus des hommes qui se sont voués corps et âme, c'est-à-dire que même après avoir perdu leur corps, ils sont toujours actifs au niveau de leur âme, agissent actuellement. Et j'aimerais que Bernard de Montréal nous définisse un peu de quelle façon on peut identifier les actions de l'invisible qui sont positives et les actions de l'invisible qui sont néfastes.
Les actions de l'invisible qui sont néfastes, c'est très simple. Regardons-le sur le plan gouvernemental. L'invisible, au niveau gouvernemental, agit à travers toutes les formes de notre conscience qui servent à faussement nous sécuriser. Exemple, la musique rock, le hard metal. Cette musique, elle est utilisée par les forces invisibles pour empêcher l'homme d'avoir accès à un niveau de pensée supérieur. Tout ce qui touche la drogue dans le monde fait partie d'une des dernières attaques de l'invisible contre la société et l'organisation sociale. L'invisible travaille aussi avec ou à travers une organisation, pas nommée présentement, mais une organisation qui, pour les gens qui ont lu les journaux, ainsi de suite, ou qui ont lu le cas Kennedy, ainsi de suite, une organisation qui est extrêmement puissante dans le monde et qui véhicule son pouvoir à travers le meurtre facile, parce que tu es ses ultimes défenses contre l'opposition.
Sur le plan politique, sur le plan idéologique, l'invisible utilise des formes de pensée qui ont suffisamment de coloration pour empêcher que l'homme manifeste son individualité. Par exemple, le communisme international est une force politique utilisée par l'invisible contre l'homme, parce que c'est une idéologie qui est anti-esprit. Mais l'homme a beaucoup d'esprit en réserve. Donc maintenant, il y a des transformations en Russie et en Chine. Vous ne pouvez pas tuer à long terme l'individualité. L'homme se rebelle, sa lumière vient, avec l'aide occidentale, ainsi de suite. Vous avez des pays où cette emprise est encore beaucoup plus puissante, beaucoup plus décadente, comme en Roumanie. Donc, l'invisible utilise tout ce qui signe l'homme, le capitalisme occidental à gros grains, tout ce qui peut emprisonner l'être dans une forme de pensée ou dans un mouvement social qui va éteindre en lui sa conscience, va travailler au niveau de la science, en développant ou en mettant dans la tête de certains scientifiques brillants des idées qui éventuellement vont mettre en danger la planète, comme au niveau de la pollution, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'invisible, tout ce qui retarde l'évolution de la conscience sur la Terre, c'est bon. Donc, l'homme, lui, bon, on va prendre un cas intéressant. Regardez, par exemple, il y a quelques années, lorsque le mouvement antinucléaire était très fort en Europe, qu'on dise, le mouvement antinucléaire, c'est très bien, oui, effectivement, c'est très bien. Si les gens qui font de la prolétisation à ce niveau-là ne sont pas conscients des forces agissantes dans le monde, est-ce qu'ils font de l'antinucléarisation pour le bien-être de l'humanité, ou est-ce qu'ils sont manipulés par des agents provocateurs qui viennent de l'Union soviétique, qui ont avantage à forcer l'OTAN à se dénucléariser pour que l'OTAN, à court ou à long terme, soit plus faible devant une position politique renversée. Vous savez que la politique, c'est un pendule. Les gens disent, ça va bien dans le monde. Ça va bien maintenant. Il y a de l'espoir. Mais ensuite, quelque chose se produit et là, ça va mal. Et on peut voir facilement dans les paroles des chefs d'État, on peut voir facilement la position de renversement facile qu'ils peuvent épouser dans la mesure où une situation ne fait pas leur affaire. Donc, les gens qui disent « Ah, mais l'Europe, elle est en voie de se sécuriser sur le plan nucléaire parce que les Américains ou l'OTAN se retirent », ça, c'est de la spéculation. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Gorbatchev. C'est un homme qui est venu à temps, Gorbatchev. Mais les gens qui sont en position politique, en position de décision, peuvent facilement se faire leurrer par Gorbatchev, parce que Gorbatchev, ce n'est pas la Russie. Gorbatchev, ce n'est pas la totalité du Politburo. Gorbatchev peut avoir un accident. Toutes sortes de choses peuvent arriver à Gorbatchev. Donc, s'il y a trop de renversements dans la situation russe, si le communisme perd trop rapidement son pouvoir, à travers le mécanisme des élections qui se fait, ainsi de suite, il se peut très facilement qu'il y ait un durcissement en Russie. Donc, d'un côté, un politicien ou la politique occidentale devrait s'occuper d'être bienveillante par rapport à Gorbatchev, d'aller vers ou de faciliter le phénomène de la perestroïka, c'est très bien, mais ne jamais perdre de vue que la Russie, elle est dominée par des forces qui ne font pas partie du champ d'énergie qui a été responsable pour le développement de la Constitution américaine sous Jefferson. Alors, si les gens sont naïfs, et on reproche souvent à la jeunesse d'avoir une certaine force, une certaine candeur, c'est la jeunesse qui souvent amène des changements. Très bien. Ça fait partie de sa mission sur la Terre. De notre côté, la jeunesse, dans un temps tel que le nôtre, peut faire des actes qui, à long terme, peuvent être dangereux pour l'équilibre des forces dans le monde, si ceux qui mènent ces jeunes, si ceux qui s'occupent de placer une certaine volonté politique dans un créneau qui n'est pas réellement parfaitement libre de la naïveté politique.
Donc si on dit, bon, il y a eu des mouvements d'anti-nucléaire en Europe, on est content, ça c'est bien. Mais qu'on regarde, pourquoi Gorbatchev a réduit les effectifs en Russie? Il les a réduits, Gorbatchev, les effectifs, non pas parce qu'il a voulu les réduire, mais parce qu'il a été forcé de les réduire pour des raisons économiques. C'est pas pareil. Donc lorsque Bush et le secrétaire d'État américain dit, let's see, on va voir. On va voir. Est-ce que les bonnes intentions vont continuer? On va voir. Ils ont entièrement raison. Donc, on revient à quoi? On revient encore au problème de la naïveté.
Je soulève un aspect de votre discours. Quand vous avez dit, derrière la Russie, ce n'étaient pas les mêmes forces occultes agissant que celles qui ont agi lors de la déclaration d'indépendance américaine. Deux clans?
Il y a deux clans. Les forces qui sous-tendent la Russie sont centrées, pour la plupart, dans la constellation d'Orion. Les forces qui sous-tendent la puissance américaine sont situées dans Andromède. Donc ce sont deux mondes qui sont totalement opposés les uns aux autres. Ce sont des mondes qui ont une très très longue histoire d'opposition. D'ailleurs, ce sont les forces orioniques qui ont créé sur la Terre le premier pouvoir astral de l'homme, celui de vivre sa sexualité. Par contre, ce sont les forces de l'Andromède qui ont permis que l'homme sur la Terre puisse commencer à penser. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se passe sur le plan politique dans le monde, il faut avoir une conscience qui est suffisamment déconditionnée pour que un autre niveau d'intelligence perce à travers notre conscience mentale inférieure, notre ego, pour nous donner une liberté de voir et de comprendre ce qui se passe. Sinon, nous sommes forcés de vivre une polarisation. J'ai remarqué une chose qui me fatigue souvent et toujours d'ailleurs. Quand je vais en voyage, je rencontre beaucoup de Français. Et les Français, pour une raison qui est culturelle, effectivement, ont toujours tendance à critiquer les Américains. Les Américains n'ont pas de culture, les Américains c'est ci, les Américains c'est ça. Et avant je laissais passer, maintenant je ne peux plus laisser passer. Ah, des Russes, ils vont dire toutes sortes de choses, toutes sortes de bonnes choses. Ils vont parler de la perestroïka, ils vont parler du ballet russe, donc, ils ont un blind spot, c'est la culture. Et je suis obligé de leur dire, écoutez, c'est l'Amérique d'ailleurs qui vous a sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec la Russie. C'est l'Amérique qui vous a amené le plan Marshall. C'est l'Amérique qui a redonné au Japon son statut économique. C'est l'Amérique qui a permis de redonner à l'Allemagne de l'Ouest sa puissance. C'est l'Amérique qui a fait l'ouverture pour ralentir le mouvement de la nucléarisation. C'est l'Amérique qui a fait les mouvements des droits humanitaires. Autrement dit, c'est l'Amérique, c'est tellement l'Amérique que ça les fatigue. Donc j'ai dit, un jour il va falloir qu'en bon français, vous soyez capable de prendre conscience qu'effectivement, il n'y a pas autant de culture en Amérique sur le plan historique, parce que l'Amérique n'a pas le même passé, c'est comme au Canada. Nous sommes des pays qui ont été conquis ou construits depuis 200 ans, 300 ans, alors que vous avez 1000 ans d'existence. J'ai dit, allez donc faire un tour à New York, faire un tour à Los Angeles, à San Francisco. Rencontrez donc des gens dans le Pennsylvania. Rencontrez donc des gens qui ont construit l'Amérique. Et vous verrez que les Américains intelligents sont extrêmement intelligents et qu'ils valent en culture, en savoir, et tout ce que vous pouvez concentrer dans votre petit midi. C'est une mauvaise habitude. Et après cette conversation qui n'est pas agressive, parce que je ne suis pas une personne agressive, ils disent oui, c'est vrai. Mais c'est un mécanisme.
Regarde, la révolution américaine, c'était la franc-maçonnerie, les mêmes qui ont participé à la révolution française.
Oui, c'était la franc-maçonnerie, mais il y avait plus que la franc-maçonnerie. Les Américains, les chefs de la révolution américaine, c'était des initiés. Et c'était des initiés qui avaient une conscience sociale fondée sur le besoin de briser le partnership avec l'Europe afin de pouvoir créer une nouvelle forme de gouvernement basée sur une expérience nouvelle des masses qui sortait de l'Europe ou des autres pays sous le joug ou à cause du joug des politiques de puissance monarchique politique.
Donc, effectivement, c'était des êtres qui appartenaient à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, essentiellement, représente les grandes valeurs chrétiennes. La franc-maçonnerie, essentiellement, représente l'esprit de la lumière. La franc-maçonnerie, dans un sens, essentiellement, devrait être capable, sur notre planète, de créer des conditions d'évolution libres de son besoin du pouvoir politique. Le problème avec la franc-maçonnerie, ce n'est pas ses idéaux. Ses idéaux sont bien, sont grands, sont respectables. Mais il y a des couches, il y a des sphères, il y a des lieux, il y a des pays où la franc-maçonnerie utilise le pouvoir. Et il y a des franc-maçonneries, des loges, des groupements qui ont utilisé le pouvoir à un tel point qu'ils sont devenus depuis quelques années une représentation extrêmement graphique de l'abus de pouvoir. Tous les scandales financiers, tous les scandales politiques reliés à la finance, tous les scandales reliés au mouvement ou au blanchissage des argents, ainsi de suite, ça fait partie de ces mouvements insidieux. Vous savez que dans la politique, rendu à un certain niveau dans la politique, les hommes sont obligés de se rencontrer. Les hommes sont obligés de partager des idéaux communs. Les hommes sont obligés de s'entendre sur des principes d'action. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas arrivé au niveau de la politique à conscientiser son intelligence et à émettre dans le monde des idées qui ne sont aucunement colorées par la conscience astrale. Donc, dans la franc-maçonnerie, en elle-même, représente les chapiteaux spirituels d'une lumière, et elle n'est pas parfaitement pure. Si elle était parfaitement pure, la franc-maçonnerie, elle agirait à d'autres niveaux, elle serait obligée de travailler dans des couches de conscience que même l'humanité ne saurait pas. Donc la franc-maçonnerie, c'est réellement un mouvement spirituel hermétique, plus ou moins hermétique de temps en temps, très hermétique dans d'autres, mais à l'échelle de la masse. C'est un mouvement de masse, la franc-maçonnerie. Mais c'est un mouvement de masse qui est basé sur une certaine lumière spirituelle. C'est pour ça que les Américains ont bénéficié de son appartenance, la Révolution française, ainsi de suite.
L'Église catholique a répudié la franc-maçonnerie.
Oui, l'Église catholique, c'est normal. Écoutez, nous disions tout à l'heure que dans le monde, les pouvoirs sont au pouvoir. Donc l'Église catholique, dans le passé, était presque monarchique. L'Église catholique avait le pouvoir, elle avait un grand pouvoir temporel. La franc-maçonnerie ne pouvait pas facilement cohabiter avec elle parce qu'elle aurait facilement pu détraquer les choses. Regardez De Gaulle. De Gaulle ne voulait pas de société secrète en Europe. Il était anti-franc-maçonnerie en Europe. De Gaulle voulait, lui, son gouvernement, être le pouvoir. Il ne voulait pas de pouvoir parallèle. Donc, c'est normal qu'il... Mais ça revient maintenant à la franc-maçonnerie en France, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où un gouvernement ou un pouvoir quelconque sévit contre un autre pouvoir, mais ça fait partie du besoin des pouvoirs de monopoliser leur étendue, leur puissance. Dans le cas de l'Église catholique, c'était une puissance spirituelle. Donc, dans un sens, c'était une bonne puissance. Mais d'un autre côté, c'était une puissance aussi qui a été responsable pour ralentir l'évolution de la conscience mentale de l'homme, bien que sur le plan émotionnel de l'humanité, elle a fait de très grandes choses. Ça dépend comment on regarde.
Au-delà de la franc-maçonnerie, il y a aussi d'autres ordres occultes, comme les Illuminati.
Oui. Il y a beaucoup de sociétés secrètes dans le monde. Ces sociétés secrètes, ce sont des hommes qui jouent au pouvoir, qui jouent. À partir du moment où un homme fonde une société secrète, il joue le pouvoir. Donc, dans un sens, si on va très très loin dans la compréhension des lois des sociétés secrètes, si on va très loin et qu'on regarde là dans les plans subtils de l'astral spirituel, on peut facilement dire que là où il y a une société secrète, il y a une tendance quelconque à prendre possession de l'humanité, à un niveau quelconque. L'homme peut être secret,
L'homme peut s'empêcher de dire des choses, l'homme peut réellement contrôler son énergie, et ainsi de suite. Mais de là à former des sociétés secrètes, si nous formons des sociétés secrètes pour des raisons stratégiques, stratégico-politiques, stratégico-religieuses, spirituelles, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Il y a des très bonnes raisons pourquoi il y a eu des sociétés secrètes, souvent pour aller contre des pouvoirs qui allaient contre le bien de l'humanité. Les francs-maçons, c'est un exemple. Donc, un peu même la mafia. La mafia, au début, elle a fait de très grandes choses, au 15, 16, 17e siècle. Bon. Donc, mais est-ce que l'homme, est-ce que les sociétés secrètes sont capables de soutenir, de supporter leur pouvoir de façon permanente pendant des siècles? Et là, la question. Et ma réponse, c'est non. Que l'homme, au début, que l'homme ou que des hommes, dans une convention, au début, créent une société secrète parce qu'ils ont certains idéaux. Ils voient quelque chose, ils sont obligés d'agir en secret parce qu'il y a une oligarchie autour d'eux qui les empêche. Mais une fois que cette société secrète devient puissante, elle-même s'abreuve du besoin d'être puissante. Et à partir du moment où une société secrète cherche la puissance et qu'elle n'est pas capable d'elle-même de s'éliminer après avoir pris conscience qu'elle a fini son rôle, elle se fait astraliser. Donc on peut dire que les sociétés secrètes, dans leurs mouvements originaux, sont d'ordre spirituel, du haut astral, et avec les temps, les siècles, la vibration descend, tombe, et éventuellement ces sociétés sont manipulées par des forces astrales inférieures, et éventuellement on a des scandales comme on a eu dernièrement. Vous savez, le pouvoir, supporter le pouvoir, sans astraliser le pouvoir, ça ne se fait pas par un être humain qui n'est pas conscient. Il faut qu'il y ait suffisamment de transparence dans l'ego pour laisser passer, laisser aller, dissoudre. Ça prend beaucoup de conscience dans l'ego. Et l'homme aura cette conscience. Il sera secret. Il aura des pouvoirs. Ça fera partie de sa lumière, de sa conscience. Mais ce seront des pouvoirs qui ne seront plus de l'ordre des pouvoirs anciens. Ça fera partie de sa nature. Ce sera une seconde nature.
Je reviens avec Andromède et Orion. Est-ce qu'on parle des extraterrestres? Parce qu'on sait qu'il y a des communications d'Orion qui arrivent en Suisse.
Non, je voulais dire une chose. Votre entendement, votre conception ou votre... concernant le phénomène extraterrestre, ça m'a toujours fasciné parce que... il y a des êtres dans le cosmos qui ont différents niveaux vibratoires. Il y a des êtres qui ont une capacité de matérialiser leur corps. Il y a des êtres qui n'ont pas cette capacité. Il y a des êtres qui n'ont pas de corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux terme extraterrestre? Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour la simple raison qu'un extraterrestre, dans le contexte de votre vocabulaire, ou de votre conception, c'est un être qui, dépendant de son origine, a le pouvoir de se manifester, d'instruire, d'envahir, de détruire, pour le besoin de sa propre gouverne, de sa propre organisation, de son propre gouvernement, à court ou à long terme. Les extraterrestres, les intelligences qui viennent d'ailleurs, doivent protéger la séclusion de leurs oasis cosmiques. Parce que nous, sur notre planète, nous avons des sciences qui sont extrêmement enfantines, extrêmement bénignes, bien qu'elles soient radioactives. Mais dans le cosmos au large, sur les autres plans, dans les autres mondes, la science est très avancée. Et ces êtres-là ont des sciences qui ont des technologies immatérielles. Donc, ayant des technologies immatérielles qu'ils peuvent matérialiser, à quel niveau se situe la définition spirituelle, mécaniste ou psychique du terme extraterrestre? Est-ce qu'un extraterrestre est un être spirituel? Est-ce que c'est un être mécaniste? Est-ce que c'est un être biologique? Est-ce que c'est un être psychique? Qu'est-ce que c'est? Donc, les extraterrestres ou les intelligences qui viennent d'ailleurs sont de différents niveaux, de différentes races. Ils ont différentes congrégations, différents gouvernements, et ils travaillent avec un pôle de l'énergie ou un autre. Ils travaillent soit avec les forces que nous appelons sur notre planète dans un terme spirituel, les forces involutives, arimaniennes, lucifériennes, ou ils travaillent avec les forces de la lumière. En ce qui me concerne, les forces dites extraterrestres qui travaillent avec la lumière ne sont pas encore sur la planète. Ce qui reste du phénomène extraterrestre dans le monde, c'est un phénomène qui fait partie des grandes puissances
océaniques, des grandes puissances scientifiques dans le cosmos, qui viennent vers la planète pour regarder ce qui se passe, pour étudier l'homme, mais ça ne fait pas partie du cycle où les extraterrestres, ou ces êtres de lumière, viendront vers l'humanité pour entrer en contact avec l'homme individuellement, au lieu de venir en contact avec l'homme sur le plan collectif. Il y a eu dernièrement aux États-Unis un type qui a publié un livre qui est un phénomène, qui est un livre qu'il a bien écrit. D'ailleurs, il a tellement bien écrit son livre et il semble tellement sincère dans son livre que le Time et les grandes chaînes américaines lui ont dit « Si ce type dit la vérité, parce que le thème de vérité encore aujourd'hui pour nous est important, si le type dit la vérité, nous avons réellement des choses à étudier et à regarder de près. » Et c'était le number one, le best-seller. Et
Communion.
Mais donc, son phénomène extraterrestre, il se situe à quel niveau? Est-ce que se situe au niveau éthérique? Est-ce que se situe au niveau astral? Très important de savoir si le phénomène extraterrestre se situe au niveau éthérique ou astral.
Il y avait un congrès d'ufologie au Brésil l'automne dernier et deux ufologues sont décédés mystérieusement parce qu'ils avaient dévoilé un dossier très étoffé sur le fait que le gouvernement américain est à la solde d'une catégorie d'êtres extraterrestres qui sont plutôt intraterrestres, des technologues, et qui ont fait un pacte dans les années 50 après la dernière guerre mondiale pour aider, ils ont d'abord aidé dans l'occulte les Amériques à détruire Hitler, et par cette aide et ce pacte occulte, le gouvernement américain a cédé corps et âme, le peuple américain, à cette société extraterrestre, intraterrestre. Et depuis cette époque, le petit bonhomme de chemin fait son chemin, de façon à ce que le grand jeu sorte du sac dans les années 90, avant l'Armageddon. On est entré en plein dans le dossier que je souhaitais aborder avec Bernard de Montréal. Ça se terminera ainsi dans notre première partie. Et dans la deuxième partie, j'aimerais beaucoup, Bernard de Montréal, qu'on aborde carrément des jeux de coulisses, ou plutôt de cadavres, qui font que, si vous êtes bien informé, vous ne pouvez pas passer à côté de certaines informations qu'on ne divulguera pas ici ce soir comme étant les secrets qu'on dévoile, mais simplement renforcer la pression des gens qui sont soit des bons lecteurs, soit des bons penseurs, des bons intuitifs, pour recevoir certaines informations que je vous demanderai de d'approfondir ou de raisonner là-dessus, si on veut, sans vous obliger à dire « oui, je suis d'accord avec ces idées-là ». C'est un rôle de Richard Glenn de diffuser beaucoup d'informations sur le phénomène extraterrestre, parce que c'est le phénomène du siècle qu'on est obligé de vivre, consciemment ou inconsciemment, le jour ou la nuit. On passe pas à côté de ça. C'est le phénomène du siècle.
Bon, vous savez, le comme vous... Comme vous venez de dire, c'est beaucoup plus votre rôle de parler de ces choses-là que le mien. Où il y aurait un problème, et que dans la masse québécoise qui vous écoute, les gens, s'ils n'ont pas suffisamment de discernement, s'ils ne sont pas capables de voir à travers la forme que vous utilisez pour exprimer ce que intérieurement vous savez, ces gens-là vont avoir tendance à concrétiser votre message, c'est-à-dire à lui donner une valeur psychologique, catégorielle, absolue. Et là, il y a un danger. Parce que, dans leur naïveté, dans leur simplicité, dans leur recherche du fantastique, ils vont perdre conscience d'eux-mêmes et ils vont développer une surconscience de quelque chose dont ils sont affectés sur les plans subtils de leur être, mais qu'ils ne pourront jamais se libérer ou contrôler ou dépasser dans la mesure où ils sont émotivement affectés par ce que vous dites. Si vous parlez au public québécois avec les outils que vous utilisez et que les gens, au cours des années, arrivent à graduellement pouvoir réaliser que les glaneries sont effectivement des glaneries, vous entrez dans un monde, vous amenez à l'homme par la voie du fantastique ou par la voie du matérialisable, par la voie du concret, des aspects qui font partie de l'invisible, de la conscience
planétaire, interplanétaire, terrestre, intraterrestre. À ce moment-là, ces gens-là vont en arriver à développer une intuition de ce que vous savez. Là, à ce moment-là, ils vont cesser, ou ils devraient cesser, de vous voir comme un genre de clown, comme un genre de bonhomme à tendance journalistique sensationnaliste, pour vous voir à un autre niveau, à un niveau plus sérieux, à un niveau plus profond. Donc, ils vont dépasser le masque que, dans votre travail, vous vous donnez, que vous êtes obligé de vous donner pour rentrer, pour pénétrer dans la conscience du public. Puis finalement, ça leur permettra d'éveiller leur intuition et éventuellement d'en arriver à permettre que des gens comme moi, par exemple, qui est un homme sérieux, je ne fais pas de glénerie, puissent, avec vous ou des êtres comme ça, parler du phénomène extraterrestre. Moi, la raison pour laquelle je ne parle pas du phénomène extraterrestre dans le sérieux chose, c'est parce que le phénomène extraterrestre, pour moi, n'est pas compréhensible dans la mesure où les gens n'ont pas suffisamment d'intuition, c'est-à-dire suffisamment de perception interne pour dépasser la forme utilisée dans le public pour leur faire ou pour les rapprocher du phénomène. En ce sens-là, ce n'est pas le phénomène extraterrestre qui ne m'intéresse pas, au contraire, mais c'est la façon dont les gens le traitent qui me répugne. Je retourne à vous. Vous, vous êtes obligé de le traiter comme vous le traitez. Ça fait partie de votre travail. Et ça, c'est bien. Mais c'est au public de grandir en maturité et de voir qu'au-delà de la glénerie, au-delà du décodage, au-delà du personnage qui joue avec la forme, il y a une intention d'instruire. Donc, ces gens-là qui sont arrivés à un niveau où ils peuvent bénéficier d'une intention d'instruire pourront aller plus loin dans la compréhension du phénomène extraterrestre. Et c'est là que des personnages pourront venir, soit sur le plan matériel, ou soit sur le plan éthérique, pour instruire les masses du phénomène extraterrestre. Tant que les gens demeurent trop émotivement rattachés à la forme imaginaire que vous projetez à cause de votre façon, de votre personnage, à ce moment-là, je n'ai pas d'intérêt créatif à le faire. Vous en faites assez pour tout le monde sans que moi, je me mette le nez dedans. Par contre, si jamais, pour une raison ou une autre, on faisait une étude du phénomène extraterrestre, je ne pourrais pas le faire dans un public non averti. Je ne pourrais pas le faire dans un public naïf. Je ne pourrais pas le faire dans un public fasciné. Je serais obligé de le faire dans un public rassis, intelligent, intuitif, qui a été éveillé à tout ce qui entoure ce phénomène-là ou d'autres aspects, d'autres appendages. Et là, j'aurais le plaisir de parler du phénomène extraterrestre. Sinon, pour moi, c'est une perte d'énergie énorme parce que je sais trop bien qu'il est plus important pour l'homme aujourd'hui de se connaître lui-même que de connaître les autres, même les extraterrestres. Si l'homme ne se connaît pas lui-même, il ne pourra jamais comprendre ce phénomène. Et le culte de cette science est tellement vaste qu'une personne comme moi-même, au lieu d'aider le public, créerait plutôt de l'attention, créerait plutôt de la perturbation, parce qu'à partir du moment où on regarde dans le phénomène de l'invisible, on est obligé de renverser la nature de l'homme. On est obligé de renverser la nature de la vie perçue par l'homme au niveau de son inconscient. On est obligé de renverser la nature de la terre. On est obligé de renverser la nature du monde animal, plantaire, humain. On est obligé de regarder complètement à l'envers parce que la vision cosmique de l'humanité, de l'homme, face à tout ce qui existe dans la création, c'est une vision télescopique, mais à l'envers. L'homme regarde d'une certaine façon, l'homme conscient regarde d'une autre façon. Ça fait partie de l'évolution et l'évolution. Donc, en tant que personne, je vous ai respecté, je vous ai toujours respecté, d'ailleurs, vous êtes mon ami personnel, mais en tant que personne sur le plan public, je ne peux pas jouer avec vous la game, le jeu, le mouvement que vous jouez avec la population, parce que ce n'est pas mon rôle. C'est votre rôle à vous, ce n'est pas le mien.
Si dans votre rôle, vous en arrivez éventuellement à faire sortir de cette population un certain nombre d'individus, ce n'est pas un grand nombre, mais un certain nombre d'individus qui peuvent connecter avec leur propre énergie, à ce moment-là, il peut y avoir un autre mouvement où on peut regarder dans le culte du mental, dans le culte de la matière, dans le culte de l'esprit, dans le culte de l'énergie, de l'émotion, dans le culte de l'espace, dans le culte du temps. Et à ce moment-là, ça devient intéressant, ça sera un autre cycle. Ça invitera les populations, surtout la population québécoise, à réaliser qu'il y a dans la province de Québec énormément de savoir, que des hommes dans la province de Québec sont prêts à pouvoir connecter avec ce savoir. C'est inutile de connecter avec le savoir si on n'est pas capable de connecter avec soi-même. Donc les gens qui sont dans le public et qui n'ont pas suffisamment de sens développé, parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce stage dans leur évolution, ne peuvent pas s'attendre à ce que le phénomène OVNI soit révélé au-delà de ce que les ufologues essaient, tentent de faire. Et ça, c'est une loi cosmique, parce que ça fait partie de la loi des secrets, ça fait partie de la loi des voiles, et ça fait partie de la fusion de l'homme conscient. Donc, pendant des années, j'ai fait des mises en garde, tout mon travail, toute l'instruction est liée à des mises en garde, qui affectent autant l'homme sur les plans d'évolution spirituelle que l'homme face à sa relation à des plans d'évolution cosmique, éthérique ou astro, ou matérielle. La conscience créative regarde tout, elle peut regarder tout, elle s'applique à tout regarder, mais elle ne peut pas s'impliquer directement dans un mouvement d'esprit qui, au lieu de créer chez l'homme un centre de gravité, créerait chez lui simplement de la fascination. C'est très facile de fasciner les gens. Vous pouvez fasciner les gens parce que vous êtes un homme qui est fondamentalement honnête. Vous ne cherchez pas le pouvoir. Donc, vous pouvez fasciner les gens parce que vous n'utiliserez pas la fascination pour votre propre agrandissement. Si vous utilisiez la fascination pour votre propre agrandissement, vous seriez abattu dans la province de Québec. Vous seriez occultement abattu. Et si moi je travaille avec vous, c'est justement parce que votre énergie, votre éther, vos plans sont suffisamment harmonisés aux miens pour qu'on puisse travailler ensemble. Sinon, ce serait la guerre. Ce serait la guerre occulte. Donc, l'homme qui est dans le public, qui vous reçoit dans toutes vos glaineries, dans toutes vos niaiseries, qu'il ne prenne pas au sérieux ce que vous dites, qu'il regarde au-delà de la forme, il va intuiter ce qu'il sait, va connecter avec ce que vous essayez de présenter, et probablement plus tard, il y aura des colloques dans la province de Québec qui finalement éventeront l'occulte de la science hominide à tous les niveaux, dans toutes les constellations, sur tous les plans, et même sur le plan de la Terre. Mais il faut qu'il y ait une préparation.
D'ailleurs, la deuxième raison pour laquelle j'ai l'ésotérisme expérimental, la première étant de normaliser le paranormal, principalement le phénomène extraterrestre, qui blesse beaucoup d'humains qui sont violés dans leur conscience par ces êtres. La deuxième raison, c'est pour créer une armée. Créer une armée, non pas de G.I. à la Rainbow avec les mitraillettes, mais de Jedi. Les Jedi, vous savez, le Star Wars, les Jedi, c'est-à-dire des êtres qui ont, comme vous dites très souvent, une énergie centrique.
Des êtres qui sont psychiquement touchables, c'est ça.
C'est exactement.
Jedi.
Alors moi, je vais poser une question à Bernard, parce que moi, j'ai fait une tournée à travers la province de Québec, j'ai rencontré 72 groupes en 1987, dans leur cuisine, dans leur salon, 72 groupes d'au moins 15 personnes par groupe, partout au Québec. Et je suis sorti de cette expérience-là relativement déçu, sans être fondamentalement déçu, simplement me rendant compte qu'il y a très, 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 très peu de gens capables. Le maire de Montréal, lui, de son côté, il donnait des séminaires à des gens qui étaient sélectionnés, disait-il au début. On vous appellera, donnez-moi votre numéro de téléphone ou à une personne.
Je vais vous dire une chose concernant ça, c'est intéressant.
Quelle est votre réaction devant ces séminaires, ces séminaristes?
Vous savez pourquoi je sélectionnais les gens au début? Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, parce que les gens connaissent un peu ce que j'ai à dire. Mais au début, je sélectionnais les gens parce que
Quand nous sommes entrés dans le public, c'était une vague nouvelle. Et les gens avaient fait toutes sortes de recherches spirituelles, étaient allés dans toutes sortes de choses. Il y avait des gens qui étaient aussi psychologiquement et psychiquement violables. Il y avait des gens, il y a des gens dans le monde, il y a des gens qui ont des dossiers psychiatriques. Donc quand vous avez une vie qui est en faillite, et que vous rencontrez une personne, une vie qui a été brisée, qui vous a amené, par exemple, à un institut psychiatrique, et que vous rencontrez un bonhomme qui parle de choses que nous ne retrouvons pas en général dans les classes libres, à ce moment-là, les personnes sont attirées, les personnes sont fascinées, et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que des paroles ou des sujets qui sont fondés sur une conscience créative, au lieu d'aider ces personnes, les casser encore plus. Donc lorsque j'avais des gens que je sentais...